lettres coréennes. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Lettres coréennes. Cette semaine, nous vous proposons de lire ensemble la nouvelle de Kim Yoo-jung, Les coquins. Cette nouvelle, publiée en 1935, relate l'histoire de deux frères, Eung-til et Eung-woo. L'aîné Eung-til est un joueur et voleur récidiviste qui a fui son village natal pour échapper aux créanciers, alors que le cadet Eung-woo est un paysan travailleur et candide. Mais Eung-til n'était pas quelqu'un de si mauvais à l'origine.
Il y a à peine 5 ans, il avait une épouse aimante, un fils et même une maison. Tous les soirs, assis face à face, le couple essayait de réfléchir à des moyens de gagner plus d'argent, de sortir de la maudite misère, mais ne trouvait rien de réalisable. Il travaillait dur, mais il ne lui restait que ses dettes. Il devrait y avoir de gros ennuis à ce rythme. Une nuit, il réveilla sa femme ronflant à côté pour lui demander de faire le compte des articles ménagers qu'il possédait. Puis, il trempa un pinceau dans la pierre à encre. Les feuilles de journal collées au mur avaient jauni avec le temps. Il se mit à noter dessus les objets que son épouse énumérait un par un. 3 jarres en argile, 2 houes, une faucille, des bols à riz, quelques paires de baguettes et 3 bottes de paille. Ensuite, il nota les noms de ceux à qui il devait de l'argent. Les montants de la dette étaient inscrits sous leur nom et juste à côté, il écrivit en guise de déclaration que ces articles étaient ses seules possessions, qu'il s'enfuyait dans la culpabilité parce qu'il n'avait aucun moyen de rembourser leurs 54 won et qu'il ne devrait pas se battre mais plutôt discuter entre eux pour répartir équitablement les objets afin que personne ne soit lésé. Puis, il prit la fuite avec sa femme et son fils.
La famille de Eung-til vivait en mendiant dans les rues. Quand la situation a encore empiré, les 3 se sont séparés pour trouver un moyen de survivre d'une manière ou d'une autre. Après une longue errance, Eung-til s'est retrouvé avec un long casier judiciaire pour jeu illégal et vol. N'ayant ni famille, ni maison, ni terre, il s'est dirigé vers le village où vivait son jeune frère. Les 2 hommes étaient heureux de se retrouver, mais la situation d'Eung-woo n'était pas meilleure que celle de son aîné.
Était un fermier honnête. Tous les villageois considéraient ce jeune homme de 31 ans comme un travailleur exemplaire. Le problème était qu'il ne moissonnait pas le riz. Le propriétaire terrien et un certain Kim, qui lui avait prêté des céréales à un taux d'intérêt de 50% au printemps, le pressaient de faire la récolte.
« À quoi sert le riz alors que ma femme est sur le point de mourir ?»
L'épouse d'Eung-woo était gravement malade, raison de plus pour couper les plants de riz. En effet, faute de moyens, il ne pouvait même pas lui acheter des médicaments. Alors pourquoi ne l'avait-il pas fait? Quiconque avait battu les récoltes du propriétaire terrien avec Eung-woo un an auparavant n'aurait posé cette question. Il aurait été heureux de moissonner le riz qu'il avait cultivé soigneusement toute l'année. Mais après avoir donné la redevance foncière au propriétaire, payer les intérêts avec du riz et régler le paiement des engrais, il ne lui restait plus que la sueur de son dos. Il était plutôt honteux que triste. C'était vraiment humiliant pour lui de rentrer à la maison avec une charrette vide qui cliquetait alors que ses amis, qui l'avaient aidé à faire le battage, le regardaient partir les mains vides. Il ne pouvait pas contenir ses larmes. Pire encore, les récoltes de cette année furent médiocres. S'il devait faire la mousson, il n'aurait plus rien à manger et encore moins à rembourser ses dettes. C'est pourquoi il avait décidé de ne rien faire, laissant les autres prendre les plants de riz. Il serait harcelé par les créanciers s'il avait fait la récolte.
Eung-woo se trouve donc dans une impasse et maintenant il a un problème avec ce riz.
Autrement dit, le riz avait disparu. Seuls les épis grenus avaient été cueillis, laissant derrière eux les épis minces et malades. En jugé par la superficie ravagée, la quantité volée était estimée à 90 litres au moins. Eung-til fut consterné lorsqu'il découvrit cela alors qu'il marchait près des rizières tôt le matin. Si la nouvelle parvenait au village, tout le monde l'accuserait du vol.
Notre protagoniste est dans une situation embarrassante. Il a déjà un casier judiciaire long comme le bras et mène une vie loisive chez son frère cadet. Il est donc le suspect le plus probable. Il entre dans une taverne et paye un bol de macoli avec les champignons de pain qu'il vient de cueillir dans les montagnes avant de rentrer chez Ungu. Le jeune frère prépare un médicament pour sa femme malade. De la chambre sombre vient le bruit de la respiration laborieuse et de la toux douloureuse de l'épouse d'Ungu.
Ah, je pense que ça suffit. Il vaut mieux le lui donner maintenant avant qu'il ne soit trop réduit.
Ce que le cadet fait bouillir n'est pas, à vrai dire, un médicament, mais un serpent qu'il a attrapé la veille.
Tiens, fais-lui goûter ces champignons des pins.
Ungu prend les champignons que son aîné lui a offerts et entre dans la chambre. C'est pour toi. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Parle un peu plus fort.
Mais il ne comprit pas les gestes de la main de sa femme. Je pense qu'elle veut aller aux toilettes.
Elle n'a qu'à le dire.
Ungu savait que son épouse malade perdait la voix. Il ne pouvait toujours pas s'empêcher de s'énerver alors qu'il aidait soigneusement la femme décharnée, à moitié morte, à se redresser pour la mettre sur le dos. Il avait travaillé comme valet de ferme pendant 3 ans avant de l'épouser. Il n'avait jamais bu une goutte d'alcool, même s'il adorait boire, et il avait économisé chaque centime qu'il gagnait. C'est ainsi qu'il s'était marié avec elle, et voilà ce qui lui est arrivé à peine 2 ans après leur mariage. Personne ne savait de quelle maladie il s'agissait, car il ne l'avait jamais emmené chez un médecin. Quelqu'un qui prétendait connaître la médecine avait dit qu'elle souffrait de tuberculose pulmonaire et qu'elle n'avait aucune chance de guérir. Ungu emmena sa femme dans la chambre et l'allongea sur le matelas. Le breuvage de serpent avait été suffisamment mijoté. Il attendit que le médicament refroidisse avant de porter le bol aux lèvres de la malade. Elle avala le liquide sans un mot de protestation. Assis dans la cour, Ntil pensa à la valeur d'une vie humaine.
Cela fait déjà 1 mois que notre protagoniste est venu chez son frère et maintenant il veut désespérément partir. Mais il ne peut pas laisser son cadet seul avec sa belle-sœur malade. Alors il décide de trouver le voleur qui a pris le riz d'Ungu avant de quitter le village.
Je vais attraper ce bâtard ce soir et lui casser les jambes. Il y a une trentaine d'années, à l'automne, les gens fabriquaient du vin et dansaient joyeusement au rythme du gong. Cette saison aurait dû apporter de la joie à la communauté rurale, mais ces jours-ci, pour une raison quelconque, le village semblait de plus en plus assoiffé de sang. Ntil se souvint d'un voleur qui avait tué un homme avec une faucille dans une montagne une nuit d'automne 2 ans auparavant. Un fermier avait assassiné un autre fermier qui revenait du marché. Le tueur n'avait pu prendre que 4 pièces de monnaie et un petit sac de sorgho. Il se demanda si le coupable cette fois n'était pas un voyou comme celui-là et il sentit soudain ses cheveux se hérisser.
Tard dans la nuit, Ntil se dirige vers les rizières d'Ungu situées dans la montagne avec un bâton à la main pour attendre que le voleur se présente. 2 heures plus tard, lorsqu'il est sur le point de s'endormir, il aperçoit l'ombre d'un homme s'approcher. Il attrape le bâton et se cache derrière un pin.
Quelques minutes plus tard, la tête de l'homme apparut sur les bordures des rizières. Il jeta des regards de tous les côtés avant de ramper hors de sa cachette. Son visage était couvert d'une serviette ou d'un morceau de tissu, ne laissant visible que ses yeux. Il se jeta sur lui. « Salaud ! Comment oses-tu voler le riz des autres ?» Il gronda comme un canon. Le voleur sursauta de surprise, ce qui le fit rouler sur le talus. Ntil bondit sur lui. Il le saisit par la taille et le jeta violemment au sol.
« Aïe, aïe, aïe !»
Le gémissement du voleur laissa Ntil abasourdi. Il regarda l'homme et retroussa ses manches. Ensuite, il ouvrit grand les yeux et resta planté comme un poireau, perplexe. Il eut un silence effrayant. Le voleur se releva finalement après avoir gémi pendant un moment.
Comment as-tu pu faire mal à ton frère ?
Ungo lança un regard furieux à son aîné avant de lui tourner le dos. Il ne put retenir ses larmes.
« Mais pourquoi ne puis-je pas prendre ma propre récolte ?»
Il cracha ses mots, puis s'éloigna en titubant. Ungtil resta là, hébété.
Il s'avère que le voleur est Ungo. Son frère aîné ouvre le paquet qu'il a laissé derrière lui. Celui-ci ne contient même pas 2 litres de riz. Ungtil est envahi par la tristesse, pensant que son jeune frère devait recourir au vol pour une si petite quantité de céréales. Puis, il se souvient d'un bœuf qui est toujours gardé à l'extérieur d'une maison au fond de la montagne.
Un bœuf gros et bien nourri, il leur apporterait facilement 70 won ou même plus. Ungtil suivit rapidement son cadet, il ne put le rattraper que près du cimetière public. Hé, j'ai une bonne idée, je peux te faire de l'argent, tu n'as qu'à venir avec moi. Mais Ungo fit une grimace sans rien dire. Qui plus est, il secoua la main d'Ungtil placée sur son épaule. Le frère aîné perdit sa langue un instant. « Espèce d'enfoiré, ne suis-je pas ton aîné ?» Sur ce, Ungtil frappa les fesses d'Ungo avec le bâton. Le frère cadet s'écroula par terre, le corps plié. Ungtil lui donna des coups de bâton aux jambes, puis au dos. Il continua à le battre jusqu'à ce qu'il soit allongé sur le sol et pleure toutes les larmes de son corps. Il frappa son propre frère sous le coup de la colère, mais il se sentit mal à l'aise en le voyant dans un tel état. Il cracha par terre et dit « C'est ce que la vie réserve à un malchanceux !» Il aida Ungo à se redresser et le porta sur son dos. « Quand va-t-il prendre de la maturité ?» se dit-il en poussant un grand soupir. Puis, il descendit de la colline en silence.
Ungtil se sent mal d'avoir battu son jeune frère. Est-ce que cela signifie que c'est lui qui est le coquin ? Écoutons la critique littéraire Chun So-yeon qui répond à cette question et qui explique la signification de cette dernière scène.
Il s'avère que le voleur et la victime n'étaient qu'une seule personne, ce qui a probablement surpris la plupart des lecteurs. Cette fin inattendue démontre la réalité tragique des paysans coréens ordinaires pendant la période coloniale. Ils ont dû voler leur propre récolte pour se nourrir et n'ont pu trouver aucun espoir dans l'agriculture dans le cadre des relations difficiles entre les métayers et les propriétaires terriens sous le régime colonial japonais. Parfois, ils se livraient à des jeux illégaux, rêvant de faire fortune d'un seul coup. En ce sens, Ungtil et Ungo sont tous les deux les manmubin ou les coquins. Non seulement ses frères, mais aussi tous les agriculteurs coréens de l'époque qui vivaient au jour le jour sans espoir pour l'avenir pourraient être considérés comme des coquins.
Ainsi se termine cette édition de Lettres coréennes consacrée à la nouvelle de Kim Yoo-jang, Les coquins. C'était Yun Yeni au micro avec Maxime Lalo au doublage et Kim Hong-joo à la réalisation. Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle coréenne la semaine prochaine. Au revoir.